dit aux chefs des prêtres et aux pharisiens cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs convier aux noces les invités, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Vous direz aux invités, voici que j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes volailles sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils n'en tinrent pas compte et ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Quant aux derniers, ils empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. En l'apprenant, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit aux serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. » Les serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Or le roi entra pour voir les convives. Il vit là un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Dites-vous quelques instants. Je crois qu'il faudrait que nous ayons à cœur d'organiser des célébrations un peu plus belles. Le premier à m'accuser de ce genre d'insuffisance, mais là je crois qu'on se moque un peu du bon Dieu. Voilà. Et moi le premier, il faut qu'on commence à l'heure, il faut que les chants soient beaux, il faut que la liturgie soit digne, et cela ne relève pas seulement de l'autorité du prêtre et de son petit pouvoir, ça relève aussi de tous les fidèles, je dis bien de tous les fidèles, plein d'amitié, vous le savez, comme je suis profondément attaché à vous. Et voilà, je crois qu'on peut défendre la liturgie traditionnelle, encore faut-il qu'elle soit belle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À cette lecture de la parabole, nous saute au visage pléthore de petits détails assez étranges, au point qu'un esprit peu exercé risque fort de s'y perdre et de ne pas saisir les enseignements implicites qui sont contenus derrière chacune de ces petites perles, derrière chacun de ces petits détails. Comme d'habitude, rien n'est anodin, parce que si le Seigneur est un méditerranéen, il ne perd pas son temps en babillage inutile. Quelle noce, mes amis, à la vérité que cette noce-là, ce récit frappe l'attention parce qu'on y trouve des éléments inaccoutumés. Je veux parler par exemple de l'insistance assez étrange de ce roi. Je ne sais pas si vous avez relevé le nombre d'invitations qu'il envoie successives, en tout il y en a 4. C'est assez étonnant, je pense qu'on n'a jamais vu pareil acharnement. Il pourrait assez déplacer que quelqu'un nous envoyât 4 invitations de ce type. Et pourtant, le roi le fait. Encore, on peut trouver très étonnante cette violence, tout à fait déplacée elle aussi, des invités, qui vont jusqu'à tuer les émissaires que le roi a pris la peine d'envoyer, parce qu'ils ne veulent pas se rendre à ce banquet, et qu'ils s'acharnent contre eux. Je ne sache pas qu'on ait jamais liquidé un porteur qui venait nous délivrer à domicile une invitation à la noce. Quant à convoquer finalement en guise d'invité le tout venant, aux quatre coins des bourgs, nous dit-on, c'est là encore quelque chose de tout à fait inaccoutumé. Alors, pourquoi ces détails étranges? Je voudrais m'arrêter sur 2 d'entre eux, les 4 invitations successives et la violence de ces personnes qui étaient invitées et qui se défaussent. 4 invitations. D'ordinaire, c'est clair, un faire-part suffit, et nous verrions d'un très mauvais œil les parents de futurs époux qui nous rappelleraient 4 fois de suite pour nous faire bien comprendre que nous sommes attendus à ce mariage. Ce petit manège nous taperait rapidement sur les nerfs et évidemment nous raccrocherions la 4e fois au moins. Alors pourquoi une telle insistance alors qu'il s'agit d'un roi? Quand on connaît le savoir-vivre habituel des souverains, au moins en la matière, on peut être assez étonné. Eh bien, il y a évidemment une signification spirituelle à dégager. La première invitation, elle ne figure même pas dans ce texte. Mais on peut la deviner, puisque les personnes à qui le roi entend s'adresser sont appelées d'emblée les invités. S'ils sont invités, c'est qu'ils ont déjà reçu une invitation avant ce récit. On ne sait rien de cette première invitation. n'est qu'implicitement comprise dans le récit, alors a fortiori, on ne nous en dit rien, sinon qu'elle a été envoyée. Je me plais à reconnaître, mais rassurez-vous, je ne suis pas le seul, toute une partie de la tradition reconnaît dans cette première invitation la première invitation du roi des rois, c'est-à-dire de Dieu même. Première invitation qu'il adresse à l'homme. Que veut-il Dieu ? Il veut que l'homme le connaisse. C'est pour ça qu'il l'a créé. Il l'a créé à son image et ressemblance, nous dit-on. C'est-à-dire que l'homme a une sorte de connaturalité avant même de recevoir la grâce, avant même de recevoir la révélation surnaturelle. L'homme a cette connaturalité avec Dieu. Il est fait par Dieu, il est fait pour Dieu, à l'image et comme à la ressemblance de Dieu. Alors il y a une sorte de feeling entre l'homme et Dieu. C'est un feeling tout à fait imparfait, mais qui est déjà suffisant, par exemple, pour découvrir l'existence de Dieu. Nous le savons, il y a ce qu'on appelle la révélation naturelle, révélation avec un petit R qui ne mérite même pas le nom de révélation, qui est ce grand livre de la création dans lequel on voit évidemment les reflets de Dieu. Et à partir de ces reflets, c'est-à-dire l'ordre qui existe dans le cosmos, c'est-à-dire la beauté des créatures, interroge, dit saint Augustin dans des phrases autrement plus fameuses que ce que je vais vous dire, interroge les créatures et écoute-les te dire comme nous sommes belles. Eh oui, nous témoignons de l'existence d'un auteur suprême et suprêmement beau et suprêmement bon. Ça, c'est la première connaissance que Dieu permet à travers les reflets de Dieu même dans la création. Il y a également des reflets dans notre propre nature humaine. Il suffit de considérer la voie de notre conscience, cet attrait plus ou moins dévoyé, mais qui existe tout de même pour le bien. Nous recherchons toujours un bien. Même si c'est un bien galvaudé, nous recherchons un bien. Nous avons cette aspiration à la vérité. Nous avons cette aspiration à la liberté. Nous sommes fascinés par l'amitié qui peut unir des êtres. Cette amitié qui est tout le temps perfectible. Nous sentons bien que nous ne sommes pas l'auteur de tous ces trésors qui sont en nous. Ces trésors, ils sont évidemment le reflet d'un être plus grand que nous qui a placé en notre petite nature humaine toutes ces merveilles. Ça, c'est donc la première révélation que Dieu fait de lui-même. C'est cette première invitation qu'il donne à l'homme, à travers le cosmos et à travers le microcosme qu'est la nature humaine, pour accéder à sa connaissance. Première invitation au festin par le roi. Il y a une deuxième invitation, qui est la première, en fait, à figurer explicitement dans le récit d'aujourd'hui. Cette deuxième invitation, est-ce qu'on ne peut pas y reconnaître la révélation faite au patriarche, c'est-à-dire essentiellement à Abraham, et au juge, c'est-à-dire essentiellement à Moïse? Parce que ces premiers émissaires sont les premières personnes à jouir d'une révélation surnaturelle, d'une révélation particulière de Dieu, et à charger de porter cette révélation à l'humanité. C'est une révélation qui est encore toute implicite. On ne nous dit qu'une phrase ici, « Il envoya ses serviteurs conviés aux noces les invités. » Point. On ne dit rien de plus. Mais cette révélation qui est faite à Abraham et à Moïse, elle est encore toute implicite. Elle est encore toute en figure, en prévision de ce qui va arriver, mais elle n'est pas du tout plénière. Il faudra attendre des siècles, pour ne pas dire des millénaires, pour qu'on arrive à la plénitude dans la révélation, dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, première étape, portée de vive voix de cette révélation, première invitation explicite qui est faite aux invités par la bouche même de ceux qui ont été envoyés par le roi des rois. Et je vous fais remarquer que cette révélation, cette invitation plus explicite qui est faite à Abraham, qui est faite à Moïse, elle ne fait que rappeler pour une large part la révélation naturelle. Que révèle Dieu à Abraham ? Il révèle tout simplement qu'il est le Dieu unique à cet Abraham qui vient d'un peuple un peu dévoyé parce qu'il est polythéiste. Que révèle Dieu à Moïse ? Le décalogue. Qu'est-ce que le décalogue ? Largement une reprise de la loi naturelle. Vous voyez, il y a une explicitation par cette première invitation portée de vive voix par rapport à l'invitation qui était le faire-part reçu par les invités avant même le récit que nous lisons aujourd'hui. Il y a une troisième invitation qui est encore plus explicite. Le roi, comme pour séduire les convives, comme pour leur mettre l'eau à la bouche, au sens littéral, leur fait allusion au banquet qui se tiendra lors de ce mariage. Il leur parle de veaux gras qui seront égorgés, il leur parle de pintades et je ne sais quoi. dans le récit lucanien, c'est-à-dire le récit parallèle à ce récit-là dans Saint-Luc, on trouve des détails encore plus alléchants. Ça nous rappelle un petit peu la parabole de l'enfant prodigue où le père égorge le veau gras dès qu'il voit son fils arriver. Mais ici, à la différence de la parabole de l'enfant prodigue, il n'y a pas d'enfant prodigue, puisque les invités ne viennent pas du tout. Alors que le père fait miroiter toutes ces merveilles culinaires. Qui sont ces nouveaux serviteurs qui sont envoyés? On nous parle de nouveaux serviteurs. Ce ne sont pas les mêmes que pour la première annonce explicite. Qui sont-ils, ces nouveaux serviteurs? Sinon les prophètes qui viennent après les premiers serviteurs qui étaient les patriarches et les juges. Ces nouveaux serviteurs-là, on leur réserve un sort, comme vous pouvez le voir, qui est celui-même des prophètes. Jésus reproche plusieurs fois aux pharisiens, ou plutôt à leurs aïeux, d'avoir égorgé les prophètes. Et c'est ce qui se passe pour ses serviteurs. On doit donc y reconnaître les prophètes. Qu'est-ce que c'est que cette invitation qui fournit plus de détails encore que les deux autres à l'humanité? Sinon, les prophéties qui annoncent de plus en plus clairement ce qui va arriver, la venue d'un Messie et d'un Messie serviteur souffrant. Vous voyez, c'est à peine voilé dans la parabole de Jésus une claire allusion à ces différentes prophéties. Ne sont-ils pas encore plus inexcusables, ces invités, parce qu'on leur a présenté la vérité de façon plus dévoilée, de façon plus explicite qu'au cours des deux premières invitations? C'est Jésus, une manière d'accuser les pharisiens et les scribes qui l'écoutent. Cette parabole est prononcée, nous dit l'évangile de saint Matthieu, juste avant ce passage, devant les scribes et les pharisiens, au cours d'un repas chez un pharisien. Jésus entend donc stigmatiser les pharisiens et leur attitude qui est impardonnable, parce que les pharisiens avaient la plénitude de la révélation pour l'époque, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Ils ont la loi et les prophètes, ils écoutent la loi et les prophètes, dit Jésus. Quatrième invitation, alors là on atteint un degré d'invraisemblance qui est total. Cette invitation est absolument généreuse. A-t-on jamais vu un roi convoqué à son banquet parce que les invités prévus refusent de venir, eh bien aller par tous les carrefours et inviter ces différentes personnes? Là, ça nous fait penser à la parabole des ouvriers de la 11e heure. A-t-on jamais vu un chef d'entreprise suffisamment sot, dénué de prudence, pour inviter, pour engager des ouvriers jusqu'à la 11e heure, c'est-à-dire près du coucher du soleil, si vous voulez? Eh bien là, de la même manière, on s'étonne que ce roi ait une invitation si universelle. Le récit de Saint-Luc nous dit qu'il s'agit des boiteux, des estropiés, des aveugles, de toutes sortes de personnes que spontanément un roi répugne peut-être à inviter dans son manoir, dans son château. On peut s'étonner également qu'il invite, comme nous le dit le récit de Saint-Matthieu aujourd'hui, non plus seulement les estropiés, les boiteux et toutes sortes de personnes qu'on peut laisser pour compte d'habitude, mais bien les bons et les mauvais. Il faut être sacrément imprudent pour faire venir dans la salle du banquet des malfrats. Personne n'aurait cette idée spontanée. Et si Jésus présente une telle invitation, c'est bien pour nous inviter à la réflexion. Il est évident que ce récit n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est une invitation qui est totalement folle, c'est une invitation qui est absolument généreuse et c'est une invitation qui est universelle. Vous voyez, le caractère insensé de cette ultime invitation n'évoque-t-elle pas, vous l'aurez bien compris puisque c'est logique, eh bien, le caractère insensé de la révélation du Nouveau Testament, de la révélation par la bouche même du Fils de Dieu? On décèle dans cette scène complètement insensée, dans cette invitation totalement dénué de raison presque, eh bien la folie même de la croix, la folie de ce Jésus qui vient nous apprendre qui est son Père, qui nous sommes et combien il nous aime, la folie avant même la mort du Christ en croix, la folie même de l'incarnation, d'un Dieu qui est le tout autre, qui est le tout puissant, immuable, éternel, et qui vient dans la chair d'un petit enfant qui naît un jour, qui va grandir, souffrir, croître en sagesse et en grâce. Vous voyez cette beauté de la plénitude de la révélation qui apparaît sous des dehors complètement dénués de sens, complètement stupides presque, osons le terme. Voilà cette quatrième invitation donc qu'adresse le roi à ses invités. Ces quatre invitations sont une manière de plus en plus explicite de la part de Dieu pour inviter l'homme à le connaître toujours davantage. Face à cela, nous sommes frappés par l'ingratitude de ses invités. Considérez un peu ces invités, il y a deux types d'ingratitude. Certains trouvent le moyen de tuer carrément les envoyés. Hein, c'est totalement, là aussi, déraisonnable. Le remède, ce qu'ils osent, est quand même disproportionné par rapport à l'invitation qu'on leur fait et au refus qu'ils ont d'aller eux-mêmes au banquet. Ceux qui ne se contentent pas d'être indifférents à Dieu, mais qui s'acharnent contre Dieu. Voilà ceux qui sont désignés. Par contre, tuer les émissaires du roi. Ces personnes qui refusent de reconnaître Dieu et dans la révélation naturelle, le cosmos, et dans leur propre nature, et dans la révélation juive, et dans la révélation chrétienne. Ce sont des personnes pour lesquelles on ne peut pas grand-chose. Ces personnes-là se préparent à la damnation. Non pas tant parce que Dieu va les lancer, les champs qu'ils seraient dans le feu, mais parce que ces personnes sont totalement hermétiques à toute connaissance de Dieu, connaissance en quoi consiste la béatitude. Et ça, c'est la première forme d'ingratitude, première forme de refus de Dieu. Et puis, il y a un autre type d'ingratitude, un peu plus fine, et qui, alors là, nous désigne, nous reconnaissons dans cette ingratitude. Il s'agit de ceux qui disent, mais non, je ne peux pas répondre à ton invitation parce que je dois aller à mon champ, je dois m'occuper de ma paire de bœufs, je dois m'occuper de ma femme, je viens de me marier. Vous voyez, toutes préoccupations qui sont légitimes en soi. Et le roi ne reproche pas à ses invités de se livrer à ce genre d'occupation. Ce sont des occupations qui parfois ont même un caractère de devoir. Mais ce que veut le roi, c'est-à-dire ce que veut Dieu, c'est que nous donnions la priorité à répondre à la convocation au banquet. Toutes ces occupations, même légitimes, nous devons pour un temps les abandonner, laisser tomber. Dieu, premier servi. Se rendre d'abord auprès du roi des rois, et ensuite, croyons bien que Dieu nous permettra de pourvoir à toutes ces occupations qu'il nous demande auxquelles il nous demande de répondre, voyez. En définitive, ce que n'ont pas compris les invités, et là je crois qu'on touche vraiment au plus profond de la parabole, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce mariage en question, c'est leur propre mariage. Passe-t-il exactement au banquet des noces de l'agneau? Eh bien, les invités, et là c'est de la part de Dieu quelque chose d'infiniment bon, d'infiniment provident. Songez à cela. Non seulement le roi invite des personnes au mariage de son fils, mais en fait il les invite à épouser ce fils. Parce que c'est ce qui se passe pour chacune de nos âmes. Nous recevons une invitation personnelle par le roi des rois au mariage de son fils, mariage avec notre âme. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui rend le roi infiniment triste et infiniment, du coup, colérique dans sa manière de réagir, parce qu'il voit l'humanité qui refuse cette union avec son fils et qui refuse de comprendre que tout ce qu'il a pris la peine d'organiser, ce banquet, ce mariage, les invitations perpétuelles qu'il envoie aux quatre coins du monde et à travers les époques, n'ont qu'un seul but, permettre que chaque âme puisse entrer dans la salle du banquet et s'unir avec son fils. Voilà ce qui se passe. Et en réalité, ce fils, on ne nous en parle pas beaucoup, je termine là-dessus, évoqué au début de la parabole son existence, mais on ne nous en dit rien. Je me plais à croire que, après que les serviteurs, les derniers serviteurs, ont été rayés de la carte par des invités indélicats qui refusaient de venir, le fils lui-même est sorti. Comme dans cette parabole du vigneron homicide, où le maître de la vigne finit par envoyer son propre fils qui se fait exécuter. Et c'est ce Jésus, c'est ce fils du roi dont on va célébrer la noce, qui a la délicatesse de venir jusqu'aux invités et de les revêtir lui-même de la robe nuptiale. C'est pour cela que Dieu est dur vis-à-vis de ces pauvres hères qui entrent dans la salle sans l'habit nuptial. Parce que le fils a eu la délicatesse de venir jusqu'à eux avec cette robe. Ils n'avaient qu'à l'enfiler. Ils n'ont pas voulu se donner cette peine, eh bien Dieu en tire les conséquences. Sort de cette pièce. Vous voyez, beaucoup d'appelés, peu d'élus. On nous parle de grincement de dents. Non pas que Dieu soit une personne absolument effroyable, un roi terrible du tout. Nous voyons là au contraire toute la bonté de ce Dieu qui ne cesse d'adresser à l'humanité, après des siècles, siècle après siècle, je veux dire, ses appels amoureux à venir s'unir avec son fils et à revêtir la robe nuptiale que le fils lui-même a la délicatesse de nous apporter. Alors mes bien chers frères, ne considérons tout cela et ne refusons en rien toutes les avances de Dieu. Considérons toute la beauté de cette révélation de plus en plus explicite. Nous avons le privilège, nous chrétiens, nous catholiques, d'avoir la plénitude de la révélation. Nous avons le privilège que le Fils vienne à nous, dans quelques instants, nous apporter la robe nuptiale. Car cette petite hostie est une sorte de robe nuptiale intérieure. Nous allons être blanchis de l'intérieur par le Fils. Entrons avec joie dans cette salle de noces, dont notre petite chapelle n'est qu'un reflet tout à fait imparfait. Entrons là et tenons-nous comme le disciple bien-aimé sur le cœur de Jésus.